Je connais une autre version des vanités. En anglais. C'est une version moderne et électrifiée. Mais, enfin... Je vais la lire en français d'abord, puisque c'est... en anglais. Mais pour qu'on comprenne mieux. J'ai lu la presse aujourd'hui. Ça parlait d'un homme bien, un homme comblé qui avait réussi. Et même si l'article était plutôt triste, j'ai pas pu m'empêcher de rire quand j'ai regardé la photographie. C'était explosé la tête dans sa voiture. Il n'avait pas remarqué que le feu avait changé de couleur. Et toute une foule s'était rassemblée pour regarder. Ils avaient tous vu son visage auparavant, mais là, dans l'état où il était, personne n'aurait pu dire qu'il avait appartenu un jour à la Chambre des Lords. J'ai vu un film aussi aujourd'hui. L'armée anglaise venait juste de gagner la guerre. Les gens étaient nombreux à partir, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil parce que j'avais lu un certain livre qui... Enfin bon, je ne sais pas si vous comprenez. Debout, sauté du lit, un peigne dans les cheveux, réussi à descendre les escaliers, bu une tasse de thé, puis j'ai levé les yeux, j'étais en retard. J'ai attrapé mon manteau, pris mon chapeau, attrapé mon bus au deuxième passage, réussi à monter sur la plateforme et là, j'ai pu tirer une bouffée. Et quelqu'un s'est mis à parler et je suis parti dans un rêve. I read the news today, oh boy, about the lucky man who made the grade. And though the news were ever sad, well, I just had to laugh, I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the last had changed. A crowd of people stood and stared. They didn't see his fate before. Nobody was really sure he was from the House of Lords. I saw film today, boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the book. I just love to turn you on. Woke up, fell out of bed, dragged a cup across my head, found my way downstairs and had a cup. And looking up, I noticed it was late, found my coat and grabbed my hat, made the bus in second flat, found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke, and here I went into a dream. Mais quels sont les grands problèmes au juste? L'argent, la guerre. Voilà, l'argent, la guerre. On va résoudre ça ce soir, en tout cas. Forcément, c'est hardi comme hypothèse, mais soutenu. Il existe une forme de luxe qui est antérieure à l'argent. Qu'est-ce que le luxe? C'est s'offrir ce qui est d'une valeur extrême, qui est convoité par tous ou même devenu intouchable. Le luxe, c'est pouvoir disposer de quelque chose à quoi on n'a pas naturellement accès, ou pas banalement accès, ou pas ordinairement, enfin bref. Luxe, c'est ce dont on n'a pas vraiment besoin, mais qui devient subitement indispensable. Le crime est un luxe. S'offrir la mort d'une personne humaine est la chose sans doute la plus luxueuse qui soit. Lorsqu'on voit le prix d'une vie humaine, et je ne parle pas seulement du prix symbolique, mais du prix réel, un accident de la route, si s'il s'agit d'un jeune homme qui n'a pas terminé ses études, coûte à peu près 5 630 euros en frais d'investissement sur le dit jeune homme. En frais d'investissement qui n'ont pas encore commencé à rapporter un profit à quiconque, qui ne se sont pas traduits par une rentabilité. Tuer un jeune homme, c'est voler l'État. Ou une jeune femme, c'est pareil. Pour peu qu'elle ait fait des études secondaires, puis universitaires, et même au-delà. Pour peu que même l'entreprise lui ait offert un stage de perfectionnement, tout ça est foutu en l'air. C'est du luxe. Ce n'est pas du tout la même chose s'il s'agit d'un vieillard. Vous me comprenez, vous comprenez très bien pourquoi. Un vieillard pensionné qui a fini de produire, qui ne rapporte plus rien à la société, qui ruine l'État et les collectivités locales, tuer un vieillard, ça n'a pas de valeur. C'est rendre service à la société, mais c'est une autre histoire. Ce n'est pas luxueux. Alors la guerre, évidemment, la guerre, c'est pas moral, la guerre, dit-on. Ben si, c'est moral, la guerre, c'est moral. C'est-à-dire qu'on présente toujours la guerre comme un malheur. On dit, c'est un malheur, la guerre survient, et voilà, le malheur arrive. Ah, une nouvelle guerre en Libye, en Syrie, en Corse. Mais lorsque on étudie un peu le fond des choses, et surtout l'histoire humaine, et lorsqu'on cesse de croire à ce qui se dit, on essaye d'examiner, par exemple, est-ce que la guerre, c'est vraiment ce qu'on en dit, à savoir que les gens se battent pour annexer des territoires, voler des richesses, voler des femmes, des enfants, des bateaux, des bijoux, de quoi que ce soit. Est-ce qu'il s'agit d'une pénurie qui tourne mal, la guerre ? En quel cas, si tous les pays riches, on le saurait s'ils ne se faisaient pas la guerre. C'est même un luxe, la guerre. C'est un luxe dans beaucoup de civilisations. On l'apprend en lisant Pierre Clastre. On l'apprend en lisant Philippe d'Escola. On l'apprend en lisant Geronimo. Geronimo, oui. Le successeur de Cochise à la tête des Apaches. On apprend cette chose étrange qu'on n'arrive pas à lire. La guerre est un luxe. Et c'est un luxe voluptueux. La guerre sert à reconstruire les communautés, à nettoyer les âmes, à mettre une sorte d'équivalent courage dans le groupe, dans la tribu, à donner une mémoire à la tribu. Évidemment, la guerre, vue comme ça, est une culture du luxe, c'est-à-dire qu'elle se prépare. Et lorsqu'on lit, par exemple, les mémoires de Geronimo, quand Geronimo, il a 12 ans, lorsque Geronimo est admis au conseil de guerre des Apaches, de sa tribu, en fait, ce sont des Chihuahuas. Et il a 12 ans, et il dit que c'est un bonheur extrême. Surtout ce soir-là, on décide d'entrer sur le sentier de la guerre. Il dit que jamais il avait connu un tel bonheur, et que tous les guerriers, évidemment, étaient dans un bonheur fou. Alors évidemment, quand on lit ça, on dit que ces pauvres Apaches sont totalement tarés. Ils étaient fous ou pauvres? Non, troisième moment de la soirée, de la nôtre. Les sociétés indiennes étaient des sociétés d'abondance. Les sociétés du Magdalénien qui vivaient du côté des Ézis, du côté de Lascaux, tout ce bazar là-bas, jusque même dans les Pyrénées et vers Altamira, hein, tous ces gens-là, on le sait maintenant, vivaient dans une société d'abondance, c'est-à-dire avec énormément de temps pour juste laisser divaguer l'esprit et s'occuper de choses comme la guerre avec beaucoup de soin, beaucoup de préparation. On pourrait dire beaucoup de goût, comme on fait la cuisine, en discutant, en essayant d'évaluer des formes d'attaque. Pour se faire la guerre comme ça, c'est-à-dire chercher un luxe supérieur à la nourriture, parce qu'il y a la nourriture, il y a tout ce qu'il faut dans les sociétés amérindiennes ou antiques. Nous voilà bien avancés, la guerre comme luxe. La guerre comme raffinement. Nous voilà bien avancés. Chez les Givarots, les fameux réducteurs de tête, non seulement la guerre est une volupté, mais en plus, toute la société fonctionne sur la guerre. Comment allons-nous nous affronter d'ailleurs entre tribus Jivaro. Et combien ramènerons-nous de prisonniers morts, de têtes, pour les réduire, pas pour le plaisir de les réduire, pas pour faire de la miniature et de la maquette, pas du tout. Parce qu'il y a là la preuve tangible et extrêmement soignée de ce qu'une guerre a été bien menée, bien préparée. Et d'ailleurs, en général, l'ennemi en question sait reconnaître la valeur de celui qui est... Mais il n'y avait pas beaucoup de morts. J'avais oublié de le dire. Il y avait très, très peu de morts. Moralité. Les guerres qui font le plus de morts sont les guerres dites malheureuses. Les guerres qu'on n'a pas voulu. Lorsqu'on est contre la guerre, on est un assassin. C'est ça que je suis en train de dire. Et les gens qui, eux, étaient des gens du culte de la guerre faisaient à peu près 7-8 morts par mois, peut-être par trimestre. La jeune fille est la réalité, c'est une séquence. La jeune fille, c'est un modèle éternel aussi, mais de manière contemporaine, c'est plus facile à cerner. C'est un modèle qui va de Bambi d'un côté, enfin, la jeune fille telle qu'elle est présentée, modélisée par les médias et tous ceux qui en vivent. Et Bambi d'un côté et le latex vivant de l'autre, quelque chose entre les deux. Nous avons retenu 4 aventures de la jeune fille contemporaine. Comme ce sont des dépêches, je vais les lire en coupant. Le père accouche d'un enfant sans sexe. Dépêche AFP. La nouvelle a pris de court l'administration berlinoise. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel de la semaine dernière, les fonctionnaires de l'état civil ont été confrontés au printemps à un casse-tête administratif que voici. Le 11 avril, ils informent par courrier interne leurs collègues chargés de l'enfance et de la santé publique qu'un homme, citation, vient d'accoucher à domicile. L'affaire se passe dans le quartier populaire de Neukölln, dans la capitale allemande. L'homme, un transsexuel ayant conservé ses organes sexuels féminins, vient de mettre au monde un enfant après une insémination artificielle. L'accouché exige d'être inscrit comme père dans les registres d'état civil et non comme mère, ce qui lui sera accordé. Un enfant sans mère, dans toute ma carrière, c'est la première fois que je suis confronté à une chose pareille, explique Falko Lick de la CDU, chargé des affaires sociales de l'arrondissement. À un moment ou à un autre, cet enfant va bien découvrir que son père est en fait sa mère. Mais Falko Lick n'est pas au bout de ses surprises. Le père, enfin, père-mère de l'enfant, demande aussi à ce que le sexe du bébé ne soit pas déclaré, ce qui lui sera cette fois-ci refusé. Un enfant sans sexe né d'une père, d'un père qui est une mère, ça ne peut pas exister. Là, dit-il, j'ai des doutes, explique le fonctionnaire inquiet. Certes, l'Allemagne autorisera à compter du 1er novembre de déclarer un enfant de sexe neutre à la naissance. Mais cette possibilité, une première mondiale, ne concernera que les bébés qui présentent des ambiguïtés sexuelles constitutives. Le cas de l'accouchée de Neukölln pointe les lacunes de la législation allemande. Depuis 2008, les tribunaux ont régulièrement renforcé les droits des transsexuels. Cette année-là, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe décide que le changement de sexe d'un des deux époux ne peut être un motif d'annulation du mariage. En 2009, la Cour d'appel de Cologne juge qu'une transsexuelle peut rester père des enfants qu'elle a eus avant sa nouvelle identité sexuelle. Enfin, depuis 2011, il n'est plus nécessaire de procéder à une opération chirurgicale pour changer de sexe. Deux attestations psychologiques suffisent pour un changement de sexe d'après l'état civil. L'islam n'est pas une excuse suffisante pour ne pas aller à la piscine. La justice allemande a donné hier définitivement tort à une jeune musulmane qui voulait être dispensée des cours de natation de son école car elle se disait gênée de côtoyer des garçons torse nu. Le tribunal administratif fédéral d'Allemagne, instance suprême des juridictions administratives installées à Leipzig, dans l'Est, a considéré que le fait de pouvoir porter un maillot de bain intégral, qu'on appelle aussi le burkini, était suffisant pour garantir sa liberté religieuse. La haute juridiction a ainsi confirmé une décision du tribunal administratif de Kassel dans l'Ouest, rendue en septembre 2012, qui avait également débouté cette adolescente d'origine marocaine scolarisée à Francfort. Âgée de 11 ans, à l'époque des faits, elle avait refusé de participer à un cours de natation, ce qui lui avait valu en sport la note de 6, ce qui est l'équivalent d'un 0 dans le système scolaire français. Elle avait porté plainte en demandant d'être dispensée de ses cours, en faisant valoir par le truchement de son avocat que le Coran ne lui interdisait pas seulement de se montrer à des jeunes hommes, mais aussi de voir des jeunes hommes à demi nus. Alix Townshend, âgée de 18 ans, jeune et jolie, cette Britannique s'envolait pour l'île espagnole de Majorque pour fêter un anniversaire vêtue d'un mini-short trop court. Elle a dû se changer devant toute la file d'attente dans la salle d'embarquement, la compagnie aérienne ne souhaitant pas faire le voyage dans cette tenue. Alix Townshend est une jeune étudiante britannique qui a vécu un véritable calvaire à l'aéroport de Manchester au Royaume-Uni. Le personnel d'une compagnie aérienne l'a obligée à se déshabiller parce que son short était trop court. Seul petit bémol, elle n'a pas été autorisée à se rendre aux toilettes pour se changer. Elle a donc dû effectuer sa tâche devant tous les autres passagers. Un short beaucoup trop court. Alix Townshend se souviendra certainement toute sa vie de son voyage sur l'île des Baléares, à Majorque. Fin prête à embarquer, cette jeune femme britannique a été stoppée dans son élan par le personnel de la compagnie Monarch Airlines au moment de montrer ses billets et ses papiers d'identité. Elle a été priée de changer de tenue. En cause, son mini-short. Elle a dit « J'étais bouleversée. C'était vraiment embarrassant. Je ne crois pas que ma tenue était inappropriée. Il y avait d'ailleurs plein d'autres filles habillées toutes comme moi. Et quand la personne m'a ordonné de me changer sur le champ, j'étais prise de court. Alors, un mot, prise de court. J'ai écouté ce qu'on me disait, je me suis exécuté à la tâche car je ne voulais pas prendre le risque de manquer mon vol. Toutefois, quand j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes pour me changer, on m'a rapidement fait comprendre que je devais le faire devant tout le monde. » L'étudiante a donc dû sortir un caftan, une tenue orientale typique allant jusqu'aux chevilles, pour cacher ses parties intimes des regards indiscrets. Ensuite, elle a pu vêtir un jean sans être obligée de montrer sa culotte. Rose. Rose, 12 ans, a décidé d'entrer en guerre contre la dissection en classe. Cette collégienne de Rouen a mis en ligne une pétition qui comptabilisait déjà 12 181 signatures il y a 2 mois de cela. La ministre Brigitte Bardot en appelle à Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Elle dit « La dissection dans les collèges finance la mort d'animaux et encourage la maltraitance envers les animaux. Avons-nous besoin de massacrer des cadavres d'animaux pour apprendre ?» Non. C'est pourquoi je trouve ça injuste d'apprendre avec des animaux morts. Le 12 avril dernier, elle raconte avoir assisté à la dissection d'un poisson. On devait lui retirer les branchies pour voir le fonctionnement du système respiratoire du poisson. Mon établissement pratique les dissections de poissons et de porcs. Il est possible d'apprendre dans des livres le fonctionnement de la respiration, du cœur. Seulement, mon collège préfère financer la mort d'animaux. Elle ajoute, et les autres élèves s'amusaient beaucoup à déchiqueter ce cadavre. J'ai été écœuré de ce comportement, j'étais la seule, monsieur le ministre. Peut-être faut-il mieux d'ailleurs faire disparaître totalement les cours, la réalité de l'intérieur des cours, la réalité physique des écoles, la réalité matérielle de tout ce qu'il y a autour, le corps des enseignants, le corps enseignant. Et peut-être faut-il mieux finalement construire une école interactive sur Internet, une fois qu'il y a un peu de temps libre entre deux feuilletons télé, peut-être un magazine aussi, et qui sait quoi encore. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel est l'avantage pour celui qui travaille de la peine qu'il se donne ? J'ai examiné le labeur qu'on impose aux enfants des hommes. J'ai dit dans mon cœur au sujet des enfants des hommes, cela arrive ainsi, afin que Dieu les éprouve et qu'ils voient qu'ils sont quant à eux-mêmes semblables aux bêtes. Car le sort des enfants des hommes et le sort des bêtes, ils ont un même sort. Comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Il n'y a qu'un même souffle pour tous. L'avantage de l'homme sur la bête est nul, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout est sorti de la poussière et tout y retournera. Qui connaît le souffle des enfants des hommes qui montent haut et le souffle de la bête qui descend si bas ? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir dans ses œuvres. C'est là sa part. Car qui lui donnera de découvrir ce qui lui arrivera après ? L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine de repos que les deux mains pleines de labeur et de poursuite du vent. Et je me suis tourné, j'ai vu une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, il n'a pas de second, il n'a ni fils ni frère, et pourtant, il n'a pas de fin à tout son travail, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille ? Pour qui donc est-ce que je prive mon âme de jouissance ? Ceci encore est vanité. Mieux vaut vivre à deux que solitaire. Il y a pour les deux un bon salaire dans le travail. Car s'il tombe, l'un peut relever son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils se réchauffent. Mais un homme seul, comment aurait-il chaud ? Et si quelqu'un maîtrise celui qui est seul, les deux pourront lui résister et le fil triplé ne rompt pas facilement. Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait même plus écouter les avis. Car il sort de prison pour régner, quoiqu'il soit né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil près du jeune homme qui s'est levé à la place du vieux roi. Il n'y avait pas de fin à toute cette foule, à tous ceux à la tête desquels il était. Et cependant, les descendants ne se réjouiront pas de ça. Cela encore est vanité et poursuite du vent. L'angoisse du temps qui passe, l'angoisse de la comptabilité du temps perdu, du temps court à venir, du peu de temps qui reste, a toujours nourri l'imagination de l'éternité, de la vie éternelle. Et quand on y regarde de près, ce n'est pas une imagination, parce que nous avons tous connu la vie éternelle. Et l'éternité n'est pas un rêve, c'est pas un projet, c'est une nostalgie. Parce que nous avons tous connu la vie éternelle, enfants, avant de connaître la comptabilité du temps. Les enfants ne connaissent le temps compté qu'assez tard, vers 8 ans ou 9 ans. Et c'est pour eux un drame d'ailleurs. C'est un drame qui s'efface dans la mémoire. Mais jusque-là, et surtout dans les premiers âges, le temps est éternel. Nous avons donc été immortels. Chacun. Et on peut l'être à nouveau. On appelle ça la pycnolepsie. La pycnolepsie, c'est ce que font les enfants, mais pas que. Vous aussi, sans doute, j'espère. Vous regardez la mer. Vous regardez les toits, vous regardez n'importe quoi. Vous nous regardez, nous, d'ailleurs. Et vous laissez vagabonder le regard jusqu'à ce que le regard traverse les choses qui n'atteignent plus rien. Jusqu'à ce qu'il passe au-delà de l'horizon. Cette sensation a été appelée par Romain Rolland le sentiment océanique. Là où Freud voyait une sorte d'attirance vers l'enfance, dans le nirvana, dans les rêveries du bonheur parfait et de la non-séparation entre soi et le monde, Romain Rolland dit non. On pourrait appeler ça un sentiment océanique, c'est-à-dire, par ce regard dont je parlais, tout à coup devenir l'océan, devenir les nuages. Aucune différence entre soi et les choses. Aucune différence entre soi et les vagues, entre soi et les nuages. D'ailleurs, plus de soi du tout. Plus aucun soi. Une disparition totale de soi. Et avec la disparition de soi, disparition du temps. C'est une sorte d'éternité. À cet instant, l'éternité existe. C'est un instant d'éternité vécu. dans l'instant d'éternité, l'appartenance à toute la matière du monde abolit le temps. Et ça, n'importe qui peut le vivre. Le matin, même en buvant un café. C'est dangereux. La fin du temps. Toutes les choses reviennent éternellement et nous-mêmes avec elles. Tout s'en va. Tout revient. Éternellement roule la roue de l'être. Tout meurt et tout refleurit. Éternellement se déroule l'année de l'être. Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra. Merci.